après-midi. Je vais donc vous partager, continuer à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. En tout cas, c'est ce que je crois vraiment. Et je vous avais dit la semaine dernière, donc tout de suite, je vous redonne le titre, hein, c'est « Ce qui fait la joie de la fiancée ». Et je vous avais dit la semaine dernière que j'allais essayer plutôt de ne pas être long. Donc, je me suis rendu compte que j'avais été assez long. Et en tout cas, que je continuerai donc aujourd'hui. Et finalement, en réfléchissant, en travaillant, eh bien, je me dis que, en tout cas, il y a deux points essentiels que j'aimerais partager avec vous cet après-midi et qui ne seront pas la finalité de ce que je voulais vous partager dans ce thème, ce qui fait la joie de la fiancée. Et donc, il y aura une troisième fois où j'entrerai particulièrement sur le thème de la joie dans ce que je suis en train de vous partager. Mais, ouais, je pense que vraiment, déjà ce que je vous ai partagé la semaine dernière, ben, c'est vraiment un socle, un fondement, une base pour saisir et pour vivre en fait cette réalité de la joie de la fiancée. Alors, pour juste rappeler rapidement hein, ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, déjà, bon, quand on parle de ce qui fait la joie de la fiancée, eh bien, de quelle fiancée parle-t-on, bien sûr? Ouais, on le sait tous, vous avez tous compris, je suis sûr. Et puis, comme vous étiez la semaine dernière, vous le saviez, eh bien, la fiancée, bien sûr, c'est celle qui deviendra l'épouse de Christ. Eh bien, c'est nous, enfin, c'est l'Église. L'Église avec un grand E, l'Église que nous formons. Et j'avais insisté la semaine dernière sur un point qui est quand même fondamental pour qu'on saisisse bien là où on est, qu'est-ce qu'on est vraiment en tant que fiancé et enfin la valeur de notre engagement de fiancé, parce que si je considère que je suis la fiancée de Jésus, eh bien, enfin, je peux pas considérer être la fiancée de Jésus si j'ai pas pris cet engagement de fiancé, quoi. Et je simplement je vous rappellerai que enfin, il faut considérer l'engagement de la fiancée pas comme ça se fait dans notre époque, mais considérer l'engagement de la fiancée comme ça se passait à l'époque de Jésus, parce que les termes qui sont employés, eh bien, c'est cela, la portée des termes qui nous sont laissés dans la parole de Dieu fait référence à ce qui se pensait en ce moment-là. Et juste, je vous rappellerai une chose, c'est que du temps de Jésus, en tout cas, l'engagement dans l'alliance des fiançailles était aussi fort que l'engagement de l'alliance dans le mariage. La seule différence, c'était que ils vivaient pas ensemble, et puis il y avait pas de sexualité, parce que ils étaient pas un couple sous le même toit. Mais la valeur de l'engagement. Et donc quand Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes l'Église et la fiancée, eh bien Dieu met cette même valeur. On a notre engagement. Je rappelais juste la semaine dernière que par exemple un fiancé qui avait par exemple des relations sexuelles avec une autre fiancée ou une fiancée qui avait des relations sexuelles avec un autre, enfin quelqu'un d'autre que son fiancé, mais ils n'avaient pas de relations sexuelles ensemble, bien sûr, mais s'il allait voir ailleurs, voilà. Eh bien, c'était considéré comme un adultère. Ça veut dire aujourd'hui que nous, la fiancée de Jésus, entre guillemets, si on va voir ailleurs. Donc là, après, il faut considérer ce que c'est le ailleurs. On en parlera plus tard. Mais le fiancé que je suis, s'il s'en va voir ailleurs, eh bien, je suis adultère aux yeux, envers Jésus, envers mon fiancé, envers celui qui deviendra mon époux. Et c'est ça la portée de l'engagement dans les fiançailles. On s'engage à une fidélité, on s'engage à une fidélité sans faille envers notre Seigneur. Et donc, c'est ça la notion de la fiancée, de cette future épouse, en tout cas, ce qui interpellait mon cœur. Ça, c'est une chose. Après, je vous ai parlé de la loi, hein, parce que on a un engagement, on a une alliance. Et dans l'alliance, il y avait l'ancienne alliance, et aujourd'hui il y a la nouvelle alliance. L'ancienne alliance hein, qui était manifestée au travers de la loi mosaïque, et au travers de cette loi, eh bien, je vous partageais le fait que, en tout cas, nos actes étaient, le légalisme de cette loi était le juge de nos actes. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, la grande différence avec la loi mosaïque, et je dirais que, encore une fois, je vous l'avais exprimé la semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que, c'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance qu'il n'y a plus de loi, mais, et c'est là, moi j'appelle ça, c'est pas que c'est un secret, parce que la Bible nous en parle, mais pour moi, le jour où j'ai compris ça, ça a été une clé extraordinaire. Et au travers de cette notion de ce qui fait la joie de la fiancée, donc le détail de la joie, on le verra donc dans une troisième partie. Mais ce qui fait le fondement des fiançailles, aujourd'hui je considère que en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, eh bien l'Église dans laquelle je suis est la fiancée. Donc je suis dans cet engagement. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas d'alliance. Et donc on est bien dans la nouvelle alliance. Et donc on est bien dans cet engagement de la nouvelle alliance. Et la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, eh bien c'est que l'ancienne alliance c'était la loi mosaïque, mais la nouvelle alliance, alors c'est là que c'est extraordinaire. Et c'est là que ça devient merveilleux. Parce que la loi existe. Il y a une loi dans la nouvelle alliance. Jésus l'a dit clairement. Je ne vais pas reprendre ce que je disais la semaine dernière. Mais la grande différence, c'est que cette loi-là, eh bien, c'est plus la loi légaliste, on va dire, pour faire la différence, mais c'est une loi que Dieu vient écrire dans mon cœur. Cette loi divine que Dieu lui-même vient écrire dans nos cœurs, dans notre esprit. Il vient transformer nos cœurs, il y a ce texte qui nous dit qu'il vient changer notre cœur, qu'il vient changer notre esprit. Donc Dieu lui-même vient écrire ces choses dans nos cœurs, dans notre esprit. Et je vous ai partagé la semaine dernière, et là c'est pareil, ça me semble tellement fondamental, en tout cas, j'ai tellement compris cette notion-là au travers de ce que Dieu travaille en moi, et j'ai tellement compris que dans cette dimension où Dieu vient écrire la loi dans mon cœur, eh bien, je sais aussi en même temps, j'ai compris, j'ai saisi que Dieu, avant de regarder mes actes, eh bien, il connaît mes intentions. Il sait pourquoi je fais telle chose, pourquoi je ne le fais pas. Et mes intentions aux yeux de Dieu, je dirais presque, sont plus importantes que mes actes. Mais en tout cas, elles sont, je veux dire, entre guillemets, jugées en même temps. Mes intentions et les actes qui suivent mes intentions sont jugés avec une justice, la justice de Dieu, quoi. C'est pas notre justice, mais c'est la justice de Dieu. Voilà en gros ce que j'avais globalement partagé la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager, ce sont essentiellement deux points. Le premier point, c'est que deux choses dans ce premier point, c'est que Dieu, en tant que fiancé, d'ailleurs, je vous rappelle, rappelez-vous ce que je vous avais expliqué par rapport à cette notion de fiançailles de l'époque de Jésus, les fiançailles qui duraient environ un an, et pendant cette année, d'une part, l'époux était en train de préparer sa future maison, en fait, son futur foyer. Il travaillait la préparation de son futur foyer, et l'épouse, elle, préparait son trousseau, et elle se préparait à se faire belle pour son époux. Et le premier point que je vais vous soumettre encore cet après-midi, c'est que, alors qu'on est dans ce temps de nouvelle alliance, eh bien, c'est pas qu'il se passe rien du tout. On n'est pas seulement dans l'attente. On n'est pas seulement dans l'attente des noces de l'agneau. Mais on est dans le temps où non seulement, je vous dis deux éléments, non seulement Dieu est en train de préparer, eh bien, le nouveau foyer, le foyer qui existera et dans lequel on va rejoindre notre époux. Nous qui serons à ce moment-là l'épouse, eh bien, Dieu est en train de préparer la nouvelle demeure. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que la fiancée, elle, donc nous, aujourd'hui, nous qui faisions partie de l'Église, eh bien, nous sommes celle qui est en train de se préparer pour notre époux. On est en train de se préparer pour les noces, mais on est en train de se préparer pour que notre époux soit, comment je pourrais dire ça, pour qu'on soit, on réjouisse le cœur de notre époux, pour qu'on se fasse belle. Alors, je vais prendre, vous savez combien j'aime la Bible, alors voilà, je vais vous en donner des morceaux aujourd'hui, hein, même si je sais que vous les connaissez, mais je vais les reprendre avec vous parce que cette parole, elle est tellement riche, tellement que je ne veux pas garder cette richesse-là pour moi tout seul. On va lire un premier texte dans Hébreux au chapitre 11. Et Hébreux 11, vous le savez certainement, hein, c'est un chapitre qui nous parle de la foi. Et ce texte nous dit ceci, au verset 13, il va nous dire « C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. » Voilà, ça commence bien. Hein. « Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus. » Les saluer de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, eh bien ils auraient eu l'occasion d'y retourner en réalité s'ils désiraient en fait une meilleure patrie. C'est-à-dire, leur désir c'était la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Voilà ce que nous dit ce texte aux Hébreux. Alors, je pourrais faire toute une prédication, bien sûr, sur ce texte-là. Mais juste, je vais relever au travers de ce texte deux, trois points. Premièrement, donc, on est en train de parler de la foi. On est en train de parler. Ce texte nous dit quand même quelque chose. Et juste, j'aimerais rebondir là-dessus quand même. C'est que, comment je vais dire ça? On a, dans un certain sens, parce que dans la Nouvelle Alliance, j'y reviendrai tout à l'heure dans le deuxième point, mais on est en train de vivre dans une époque de la grâce. On est sous la grâce. Mais, en même temps, qui d'entre nous, là, cet après-midi, on est à quelques-uns, là, qui peut dire, moi, je mérite la grâce de Dieu? Enfin, si vous pensez que vous méritez la grâce de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous êtes en train de vous tromper. On ne méritera jamais la grâce de Dieu. Par contre, on en bénéficie, ça oui. Merci Seigneur de nous faire part de cette grâce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personne ici, personne d'entre nous, ne méritons quoi que ce soit de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu me donne rien, si Dieu me bénit pas, à mes yeux, quoi, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai rien à reprocher au Seigneur. Rien. Et ça vient percuter nos pensées. Hein. En tout cas, ça vient percuter les miennes, quoi. Mais merci Seigneur parce que tu m'as donné comprendre certaines choses, parce que tu écris en moi, et je te rends grâce, Seigneur. Mais voilà, je sais que je peux demander tout ce que je veux au Seigneur, mais si Dieu me donne, c'est pas que je le mérite de toute façon. Et dans un certain sens, je n'ai rien à exiger de Dieu. Parce qu'il m'a déjà tout donné finalement. Ce qui était le plus important. Mais par contre, ce texte, c'est ça qu'il dit, quelque part. Parce qu'il dit, ces hommes qui étaient dans la foi, qui avaient une vraie foi. Nous, quelquefois, notre foi est un peu défaillante d'ailleurs. Mais là, il est parlé de ces hommes qui manifestaient une vraie foi. Eh bien, ces hommes qui avaient une vraie foi, eh bien, ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. Écoutez bien. C'est sûr, ça. Il ne s'est pas trompé, l'apôtre Paul, là, en décrivant ça. Si c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais ces hommes sont morts sans avoir reçu les biens que Dieu avait promis. Dieu a failli à sa promesse. Non, mais vous vous rendez compte? Est-ce que Dieu peut faillir, mon frère et soeur? Je ne crois pas. Mais en tout cas, ces hommes qui n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. Et Est-ce qu'ils sont, ils ont renié Dieu pour autant? Mais ce texte nous dit autre chose. Ce texte nous dit que malgré ça, eh bien, je reprends ce qui est écrit. Ils avaient, alors, ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient finalement que des étrangers et des exilés sur la terre, mais comme chacun d'entre nous. Mes sœurs, si en tant qu'enfant de Dieu, on ne reconnaît pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. On est effectivement des étrangers et des exilés sur la terre. Non, on est sur la terre, oui, effectivement. Et alors, le désir de ces hommes-là, eh bien, c'était qu'ils recherchaient en fait une autre patrie. C'était, ils savaient qu'ils n'étaient que de passage sur la terre. Mais face à ça, on est tous de passage aujourd'hui sur la terre. Et, en fait, il y avait autre chose. C'est qu'ils recherchaient quelque chose d'autre. Ils ne cherchaient pas, d'ailleurs, Paul va dire ici, que s'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, donc avec regret aux choses que la terre peut nous offrir, mais non, vous savez, c'est vrai que la terre nous offre quelquefois de belles choses, hein. Mais Dieu nous offre quelque chose de meilleur. Et c'est quelque chose de meilleur ici dans ce texte que ces hommes-là et ces femmes-là, parce que certainement il n'y avait pas que des hommes, eh bien, ils n'ont pas reçu alors qu'ils étaient sur cette terre, mais leur espérance, elle était ailleurs. Leur espérance était dans la patrie céleste. Et ça, c'est, pour moi, c'est un fondement. Comme je vous disais, enfin, le titre de ce message, qui sera développé donc sur trois parties, c'est ce qui fait la joie de la fiancée. Ben, la joie de la fiancée que je suis, c'est déjà de savoir qu'un jour, justement, je serai marié à un époux, Jésus, et que j'irai là-haut, dans ma patrie céleste. Et il dit, et cette patrie, hein, je vous parlais de cette période de fiançailles où le futur époux est en train de préparer la maison pour son épouse. Eh bien, ici, dans ce texte, il nous est dit, enfin, clairement, que Dieu est en train de leur préparer la cité. Dieu est en train de nous préparer une cité. Moi, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose de penser ça, de le savoir. Parce que si je le pense seulement avec mon intelligence, avec toutes les choses de la terre, ça me dépasse un peu. Mais quand ces choses-là viennent dans mon cœur, hein, c'est une autre histoire. Je sais. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de tout perdre dans votre vie sur la terre, mais ce n'est pas mon cas, alors peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est facile de dire ça, Jean-Bernard, mais si un jour tu perds tout, qu'est-ce que tu diras? C'est vrai que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, hein. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai, mais dans ma vie, malgré tout, j'ai vécu certaines circonstances très douloureuses, très difficiles, et j'ai appris beaucoup au travers de ces circonstances difficiles, douloureuses. Et je sais, le jour où je me suis engagé à suivre le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, quoi qu'il m'arrive. Et cette parole-là, je ne l'ai pas dite en l'air. Et quand j'ai vécu les circonstances difficiles, douloureuses, eh bien, cette parole que j'avais prononcée au Seigneur, cet engagement que j'avais pris devant Dieu, a été une force pour moi. Et je crois que certainement vous aussi. Moi, je vous parle de moi parce que je voudrais pas vous parler de ce que je ne sais pas non plus. Hein, mais je sais ce que c'est. Enfin, je sais cette notion de fidélité et de reconnaissance au Seigneur pour cette patrie qu'il est en train de nous préparer. Je sais que mon Sauveur est en train de me préparer une patrie. Alors, on va continuer dans cette notion de préparation, parce que Dieu est en train de nous préparer quelque chose de glorieux. Et puis, si on a le temps, aujourd'hui encore, je vous lirai d'autres textes qui vous montreront à quel point c'est quelque chose de glorieux. Mais on va aller plus loin, parce qu'il y a cet époux qui est en train de préparer, notre Seigneur qui est en train de nous préparer quelque chose de glorieux. Et nous aussi, on est ceux et celles. Si vraiment on est des enfants de Dieu, alors on se prépare. Et je vais lire deux passages dans Apocalypse, chapitre 19, versets 5 à 9, dans une première partie, mais je vous le lis tout de suite. Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle, chantez pour lui, vous tous qui le servez, et vous qui le révérez, petits et grands. Et de nouveau, j'entendis comme le cœur d'une multitude nombreuse, aussi sonore que le mugissement des vagues de l'océan et le grondement violent du tonnerre. Il chantait « Alléluia ! Louez le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, car il a pris possession de son règne et tout à présent est entre ses mains. » Et au verset 7, « Réjouissons-nous. » Ah tiens, on parle de joie là. « Exultons d'allégresse. Apportons-lui notre hommage. » Voici, bientôt les noces de l'agneau. Donc, dans ce texte, quand il est dit que réjouissons-nous, exultons d'allégresse, il nous parle de joie, là, hein, eh bien, on est fiancés encore pour le moment, on n'est pas encore mariés. Hein. Parce que ce texte nous dit que voici bientôt les noces de l'agneau, son épouse. Je relis le verset 7. Hein. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête et elle s'est fait belle. Elle s'est fait belle. Elle n'est pas restée statique. Elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a travaillé à être belle. Et je continue. Parce que le verset 8 est fondamental, encore une fois, en tout cas. Moi, je le prends. Je vous invite à le prendre aussi. Parce que ce verset 8 a une portée qui vient toucher nos vies, enfin, qui est censée toucher nos vies, en coup, si on saisit. Alors je vous le dis. Elle a reçu une robe de fine toile, d'une blancheur éclatante. Ça, c'est ce que Dieu nous dit de ceux qui deviendront l'épouse. Cette robe, écoutez bien, cette robe représente quelque chose. Ce verset nous dit « Cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. » Waouh ! Ça va ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être l'épouse, la fiancée aujourd'hui ? Est-ce qu'on a tous une conduite irréprochable ? Bon, si on regarde à chacun d'entre nous, je pense qu'on peut tous se mettre à genoux, puis Seigneur, merci pour ta grâce quand même. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire? Je ne le crois pas. Mais j'essaierai de vous en parler dans le deuxième point, parce que là, je suis toujours dans le premier point. Alors, je continue quand même, hein. Ce chapitre au verset 9, c'est-à-dire l'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau, et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors même si je ne suis pas d'accord, ça c'est mon droit, mais c'est en même temps mon problème, parce que ce texte nous dit, ce sont les paroles authentiques de Dieu. Alors, je peux les falsifier si je veux, mais ça ne changera rien, hein, parce que c'est quand même Dieu qui aura le dernier mot. Et là il dit ce que je suis en train de dire là, le verset 8 qu'on vient de lire, eh bien ce sont les paroles authentiques de Dieu. Et elles sont éternellement vraies. C'est-à-dire qu'elles sont vraies aujourd'hui, mais elles seront vraies demain. Elles sont éternellement vraies et valables. Et au chapitre 21, verset 2, donc Jean, on va dire, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et là, donc, l'Église, l'épouse, est symbolisée par la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être et nous serons la nouvelle Jérusalem. Je vous laisse lire ce qui est dit de la Nouvelle Jérusalem. Je vous invite à le prendre en compte. Là, je ne vais pas le lire maintenant. Mais... Alors, je continue quand même au verset 5. Alors, celui qui siégeait sur le trône, déclara. Voici que je crée un univers nouveau. Cette fois, je renouvelle toute chose. Et il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies. Encore une fois, il le dit, et entièrement digne de confiance. Puis il me dit, désormais, tout est accompli. Je suis le premier, le dernier, l'origine, le but. Et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau des sources de la vie gratuitement. Le vainqueur. Juste une parenthèse. S'il y a un vainqueur, c'est qu'il y a un combat. C'est qu'il y a un challenge. Le vainqueur héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux inconstants, bon, ça me parle quand même, aux dépravés, aux assassins, ouais, bon, je ne me considère pas comme un assassin moi aujourd'hui personnellement, mais en tout cas, il y a peut-être d'autres mots qui peuvent m'interpeller, hein. Aux noceurs, aux adultères, tiens, aux adultères, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on parle des fiançailles, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité. Il y aurait plein de choses à dire aussi, hein, à ceux qui s'écartent de la vérité. C'est quoi la vérité? Moi, je peux avoir ma vérité. Mais la vraie vérité, c'est Jésus, hein, c'est pas moi. Bon, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera les temps de feu et de souffle, la seconde mort. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines de sept ultimes fléaux va me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée. Oh, ça m'intéresse, tiens. L'épouse de l'agneau. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine et son éclat rappelait celui des pierres les plus précieuses. Elle resplendissait comme un jaspe qui aurait la transparence du cristal. Wow. Moi, ça me bouleverse de lire ces choses. Voilà ce que Dieu est en train de préparer. Voilà ce que Jésus, il est en train de préparer une Jérusalem céleste composée de l'épouse que nous sommes. Enfin, il est en train de préparer, et l'épouse que nous sommes, elle est en train de se préparer à devenir celle qui rayonne de la gloire divine, celle qui dans son éclat rappelle celui des pierres les plus précieuses, etc., etc. Je ne vais pas vous lire le texte. On vient de le lire. Enfin, aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, je me prépare. Je sais que je suis la fiancée. Je me prépare. Je ne fais pas n'importe quoi. Maintenant, j'arrive à mon deuxième point. Et dans ce deuxième point, j'ai marqué ceci. Il nous est, parce que je vais parler de la grâce maintenant, mais il nous est impossible de comprendre la grâce dans la Nouvelle Alliance si on ne laisse pas Dieu écrire sa loi dans nos cœurs et dans notre esprit. Je vais le redire. Enfin, ça c'est ce que... Comment je vais dire ça ? C'est ce que j'ai tellement saisi. La grâce. C'est impossible de comprendre la grâce de Dieu si Dieu ne me la révèle pas quelque part, vraiment. Je peux la comprendre de façon intellectuelle, mais j'ai besoin de la révélation de Dieu pour la saisir vraiment et savoir que c'est vraiment la grâce. Je crois que certainement qu'on a du mal à réaliser ce que c'est vraiment la grâce de Dieu si Dieu ne l'écrit pas dans nos cœurs. Si on ne reprend pas cette fondation que je vous avais donnée la semaine dernière et que je vous ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure en disant que Dieu, alors qu'il change notre cœur, alors qu'il change notre esprit, eh bien, il écrit en nous des choses merveilleuses qui rendent une portée, qui rendent la réalité de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle n'est pas limitée par ma sagesse personnelle. La grâce de Dieu, elle est infinie, mais elle est définie par Dieu lui-même. Alors, au travers des textes que je vous ai lus précédemment, moi j'aimerais vous dire une chose quand même, frères et sœurs, parce que je crois que c'est fond. Enfin, oui, voilà, je peux pas voir la chose autrement que dire et de réaliser c'est fondamental, voilà. La grâce, frères et sœurs, n'enlève pas la sainteté. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire en disant ça? J'ai noté, la grâce, bon, c'est une phrase de Jean Bernard, c'est pour ce qu'elle vaut, mais la grâce ne me donne pas le droit de mépriser la grâce. Je crois qu'on peut mépriser la grâce si on ne la considère pas à sa juste valeur, si on ne réalise pas ce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors, quelque part, je voudrais dire, voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se jouer entre moi et Dieu. Dieu qui connaît mes intentions les plus secrètes. Il sait pourquoi je fais, je vous le disais tout à l'heure. Il sait ce que je fais, pourquoi je le fais. Il sait ce que je ne fais pas et pourquoi je ne le fais pas. Comprendre la portée de la grâce, comprendre ce que c'est la grâce telle que Dieu, alors cette grâce qu'aucun d'entre nous mérite, mais qu'on en est les bénéficiaires, et frères et sœurs, dans sa grâce. Et c'est là où, en tout cas, voilà, moi je dis, j'ai découvert moi personnellement, enfin j'appelle ça un secret, c'est une façon de dire les choses, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas secret, hein, c'est révélé dans la parole de Dieu, mais à un moment donné, Dieu a dû écrire des choses dans mon cœur pour que je le saisisse, quoi, que je le comprenne. En tout cas, cette grâce de Dieu. Quand Dieu vient écrire dans mon cœur, et vous savez pourquoi Dieu écrit dans mon cœur ? Ben, c'est pas tout ça. Enfin, déjà, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Mais j'aimerais vous dire une chose, et là aussi, je crois que c'est une règle de base, c'est que Dieu n'écrira jamais dans notre cœur si on ne veut pas qu'il écrive. Et donc, Dieu écrit dans mon cœur seulement à partir du moment où je lui laisse la possibilité d'écrire, c'est-à-dire à partir du moment d'ailleurs où je cherche sa face, où je viens devant lui, où je dis, mais Seigneur, moi j'ai bien sûr j'ai mon intelligence que tu m'as donnée, j'ai ma propre sagesse, etc., etc. Mais Seigneur, je la soumets à ton intelligence, à ta sagesse. Je laisse mon cœur ouvert, Seigneur, viens écrire, viens par ta parole, viens me toucher, viens me montrer, viens m'éclairer. Mais ça, c'est la promesse de Dieu, elle le fait. Quand je suis dans cette disposition de cœur. Par contre, frères et sœurs, quand je suis dans cette disposition de cœur, vous savez quoi ? Dieu, dans son amour et dans sa grâce, justement, eh bien, il vient mettre son doigt sur les choses. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et je vous disais tout à l'heure que la grâce n'enlève pas la sainteté. Frères et sœurs, la Bible me dit clairement, et quelque part, on l'a déjà vu un petit peu au travers des textes que je vous ai lus là tout à l'heure. Frères et sœurs, rien d'impur n'entrera en présence de Dieu. Rien d'impur. Alors Dieu a pris sur lui mon péché. Mon péché. Mais si moi, quelque part, comment je veux dire ça? Je vais peut-être employer un terme fort. Si j'en ai rien à faire de mon péché, je m'en fiche, Dieu est un Dieu de grâce. Mais si je fais ça, je suis en train de mépriser la grâce de Dieu. Mais quand je réalise la valeur de la grâce de Dieu, le prix qui a été payé sur la croix, le prix de l'amour de Dieu, quand je prends en compte la valeur et la signification de la grâce de Dieu, alors je ne peux pas faire autrement que de laisser Dieu écrire dans mon cœur. Et quand Dieu écrit dans mon cœur, eh bien je change. C'est sûr, si tu ne changes pas, c'est que Dieu n'écrit pas dans ton cœur. C'est, je vais dire autrement, si tu ne changes pas, c'est que tu ne laisses pas Dieu écrire dans ton cœur. Ou quand Dieu veut écrire dans ton cœur, eh bien, ce que Dieu écrit dans ton cœur, ben, tu l'enfuis aussi vite, quoi. Tu ne veux pas l'entendre. Mon frère, ma sœur, quand Dieu veut écrire dans ton cœur, c'est qu'il est en train d'user de grâce extraordinaire avec toi. La valeur de la grâce. Dieu écrit dans notre cœur. Alors, la compréhension de la grâce divine m'amène, premièrement, à accepter la mort de ma nature adamique. J'accepte, je comprends la valeur de la grâce de Dieu. Je comprends que ce que Dieu, alors qu'il est en train de me parler, et alors qu'il est en train de me parler, eh bien, il est en train de me botter les fesses quelquefois. Eh bien, je comprends que je dois accepter de mourir à moi-même. Alors, c'est vrai, c'est jamais facile de mourir à soi. Je ne sais pas si pour vous c'est facile, en tout cas pour moi ça ne l'est pas. Et j'aimerais vous dire que Dieu a du boulot avec moi. Je le sais. Il demande pardon au Seigneur pour ça. Et dans sa grâce, il continue son œuvre en moi parce que Dieu connaît mon cœur. Il sait que je désire tellement qu'il continue à agir. Alors voilà. Enfin, mourir à moi-même. Quand tu comprends ça, mon frère, c'est l'action de la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu comprends ça et que tu l'acceptes, parce qu'il faut l'accepter, tu peux comprendre, si tu n'acceptes pas, ça ne sert à pas grand-chose. Donc il faut le comprendre et l'accepter. Et quand tu comprends et que tu saisis la portée de la grâce de Dieu, tu acceptes de mourir à toi-même, même quand c'est difficile. Parce que, oui, quelquefois c'est difficile, mais peut-être souvent. Mais en tout cas, voilà. C'est, je dirais que c'est peut-être le premier élément qui agit, enfin cette grâce de Dieu qui agit dans ma vie. J'arrive à percevoir cette valeur de la grâce de Dieu, ces choses que Dieu veut écrire dans mon cœur pour m'emmener un peu plus haut, m'emmener dans la sainteté. Eh bien, maintenant je ne serai saint vraiment. Ma robe blanche, elle ne pourra exister que parce que Dieu a payé le prix à ma place, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas entrer dans cette dimension. Le sainteté, d'ailleurs, il y a des textes qui nous disent clairement qu'on doit se sanctifier, qu'on doit être saint comme Dieu est saint. Alors voilà, cette acceptation de notre nature adamique, c'est peut-être la chose qui est peut-être la plus difficile pour nous, quelquefois. Mais quand je réalise que c'est la grâce de Dieu qui est en train d'agir dans ma vie. Ça, c'est un des éléments. Après, l'action de la grâce de Dieu, eh bien, elle fait en sorte que justement mon esprit est renouvelé, mes compréhensions des choses que je suis en train de vivre sont changées parce que Dieu, alors que la Bible me dit, et je le crois, et non seulement je le crois, mais je l'ai vécu et je le vis encore. Mes pensées sont transformées avec ce que Dieu écrit dans mon cœur, avec la lecture de sa parole qui m'est révélée par le Saint-Esprit, la signification. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout compris. Hein. Merci Seigneur de ce que tu continues ton œuvre en moi, encore une fois. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que Dieu est tellement moteur de sa grâce envers moi, Jean-Bernard. Alors, je ne vous exclue pas, je sais qu'il l'est pour vous aussi, hein, bien sûr, que Dieu renouvelle les choses dans mon esprit, me fait grandir. Il renouvelle les choses dans mon cœur. Et alors que, voilà, c'est cet élément-là, mon esprit renouvelé, mon cœur transformé, construisent en moi une confiance et une foi inébranlables en mon Seigneur et mon Dieu. Les choses qu'il écrit dans mon cœur parce que je le laisse faire, les choses qu'il redresse en moi, eh bien, conduisent, je saisis la valeur de sa grâce, et puis, alors, plus j'avance, plus je lui fais confiance, et plus j'ai foi en lui, plus ma foi devient solide, même si je n'obtiens pas ce que ma nature désire. Je fais référence au texte d'Hébreux tout à l'heure. Alors, ce texte d'Hébreux qui a été écrit il y a 2000 ans, c'est plus pour nous. Ben, si, c'est encore pour nous, frères et sœurs. C'est encore pour nous, en tout cas, c'est encore pour moi et je l'accepte. Mon esprit renouvelé, mon cœur transformé par grâce. C'est une grâce que Dieu. Mais qui on est, frères et sœurs? On n'est rien. On est des pécheurs et Dieu, dans sa grâce, vient écrire dans notre cœur, vient changer notre intelligence parce qu'on le laisse faire. Oui, frères et sœurs, ça construit en moi une foi extraordinaire, une confiance ferme. Frères et sœurs, encore une fois, je répète, mais C'est vraiment par grâce que Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Vous savez, le temps de l'ancienne alliance, il est, mais enfin, ce serait la même chose aujourd'hui. De toute façon, il nous serait impossible de vivre par notre seule volonté cette loi mosaïque si elle était toujours d'actualité. Dans un certain sens, elle l'est toujours d'ailleurs. Plus sur la même forme. Aujourd'hui, en tout cas, frères et sœurs, encore une fois, moi je réalise que c'est une grâce que Dieu me fait. Pas après pas. Et je suis pourquoi arrivé. Dieu nous rend capables. C'est-à-dire que Dieu me rend capable. Mais je le vis, je sais. Je sais pas, c'est pas seulement une vue de l'esprit, comme on dit, hein, entre parenthèses. Mais c'est une réalité parce que Dieu fait, c'est pas du vent, c'est du vrai. Et aujourd'hui, pas après pas, Dieu me prend par la main et me conduit dans sa grâce à comprendre sa loi. Vous savez, cette loi que Dieu est en train d'écrire dans mon cœur, c'est ça. C'est quoi se préparer en tant qu'épouse? Se parer? Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est précieux pour Dieu? Moi, je pense, enfin, je crois avoir saisi dans sa parole que ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, c'est sa sainteté. Et me préparer, me parer des plus beaux joyaux, eh bien, c'est en train de se faire quand je progresse. Quand je progresse, parce que Dieu est en train d'écrire, il est en train de révéler des choses dans ma vie, dans mon cœur, quand il est en train de mettre son doigt, même quand ça fait mal, mais quand, voilà, Dieu me révèle, il est en train de faire en moi, et voilà, quand je me pare, quand j'entre dans cette dimension, quand j'accepte ces lois de Dieu dans ma vie. D'ailleurs, quand j'accepte ça, vous savez ce que je suis en train de faire? Quand j'accepte que Dieu écrive dans mon cœur, quand je reconnais ce que Dieu est en train d'écrire, quand je suis en train d'être changé, transformé, quand je deviens un peu plus tous les jours semblable à son image, ouais, ben voilà, exactement, je suis en train de lui ressembler un peu plus chaque jour. Est-ce que c'est ça notre désir? Moi, je pense que c'est le désir de la fiancée qui un jour rejoindra son époux. Dieu. Et sœurs, et là quand même, qu'est-ce que c'est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu, et je le crois et je le vis, frères et sœurs, Dieu me rend capable. Si je regarde Dieu dans toute sa sainteté, voilà, je dis, je m'en vais, là, je peux pas, j'y arriverai jamais. Mes frères et sœurs, ces lois que Dieu écrit dans mon cœur, il ne fait pas que les écrire. Il me donne, enfin, au travers de la confiance et de la foi totale et entière que j'ai en lui, il me donne la capacité de les vivre. Et quand je dis ça, parce que je ne suis pas autrement que vous, vous savez quoi, il m'arrive de chuter, plus souvent que je le souhaiterais d'ailleurs, mais parce que Dieu connaît mon cœur. Comme il connaît le tien. Il sait. Peut-être, enfin même, je veux dire, parce que c'est la Bible qui nous dit ça, alors je peux me permettre de le dire, que Dieu sait mieux que toi que tu es et qui tu es. Dieu sait si tu es quelqu'un qui méprise sa grâce ou si tu es quelqu'un qui prend en compte sa grâce. Dieu le sait. Et ça change tout. Et quand je chute, quand je tombe, quand je pêche, ouais, je peux venir au pied du Seigneur et lui demander pardon. Et je sais que Dieu me pardonne, je peux me repentir. Et je sais que Dieu accepte la repentance et me pardonne et qu'il me relève. Son Dieu n'écrase pas. Il est un Père d'amour et il nous relève. Et voilà, Dieu me rend capable. Alors là, moi, c'est foi. Vous savez, quand même, quand je suis en train de vous dire ça, quand je suis en train de vous dire que Dieu nous rend capables, ça ne veut pas dire que Dieu nous rend capables sans qu'on ait des combats. Oui, on a des combats à mener. Mais Dieu ne laisse jamais seul dans les combats. Il sera toujours là avec nous. Et vraiment, c'est une réalité, mais c'est biblique, hein, c'est la Bible qui dit, je le vis, je le crois, donc je peux me permettre de vous dire, Dieu me rend capable. Il n'y a rien où on peut, où on restera dans notre incapacité parce que Dieu nous connaît, il sait ce qu'on a besoin de changer en nous, et bon, il sait qu'on est incapable de tout changer, comme ça, hein, en un clin d'œil, il va. Non, enfin, c'est la grandeur de sa grâce, encore une fois. La grandeur de sa grâce, la grandeur de son amour. Dieu pourrait exiger de nous une sainteté parfaite. Enfin, alors qu'on est encore sur cette terre. Ce serait son droit. Il sait bien qu'on en est incapable. Alors il nous emmène dans un chemin vers la sainteté. Parce que quand il dit « Soyez saints comme je suis saint », c'est une réalité quand même. Alors Seigneur, moi j'ai besoin que tu viennes écrire dans mon cœur. Encore. Vraiment, je le sais, je le sens et j'en ai besoin. Alors je prie le Seigneur qu'il continue son œuvre en moi. Et j'espère que vous faites cette prière-là aussi. La grâce divine fait de nous la fiancée qui se prépare aux noces de l'agneau. Elle a la volonté, la fiancée, enfin nous, nous avons la volonté, le désir de nous faire belle. Parce que si je n'ai pas ce désir en moi, il y a un problème, hein, franchement. Moi, j'ai désir de me faire belle aux yeux de mon époux, que sera Jésus. Elle prépare sa robe blanche qui représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. Ça, c'est le texte de l'Apocalypse. Ce n'est pas mes paroles. C'est les paroles de Jésus. Alors vous avez le droit de m'en vouloir, mais si vous m'en voulez parce que je vous dis ça, ben allez voir Jésus. Hein. C'est lui qui a dit ça, au travers de la bouche de Jean. Frères et sœurs, on a à se laisser travailler, écrire dans nos cœurs, réaliser la grâce. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, je ne voudrais pas être trop long. Je vais peut-être déjà être trop long, mais j'aimerais quand même vous lire un texte, encore une fois. Moi, il n'y a rien mieux que la parole de Dieu pour me parler. Alors, voilà, je sais que cette parole vous parle aussi. On va prendre un texte dans quelques versets quand même, hein, dans 1 Pierre au chapitre 1er d'ailleurs. Je vous lis. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour sans limite. Il a eu compassion de nous. Il nous a fait naître à une vie nouvelle en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve, cet héritage dans les cieux. » Écoutez bien le verset 5. Moi, ça m'a tellement touché. Écoutez bien. « Pendant qu'il vous garde par sa puissance. » Waouh ! Ce verset est en train de dire que Dieu me garde par sa puissance. Dieu me garde. Moi qui laisse Dieu dans sa grâce écrire dans mon cœur, changer mon esprit, changer ma mentalité, eh bien il est celui qui me garde, pas avec ma puissance à moi qui est tellement limitée, mais par sa puissance. Et je continue ce verset parce que là il y a une clé aussi. Il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise. Avec foi. Ah! Il me garde par sa puissance dont j'accepte l'emprise. Je ne sais pas si je peux le dire autrement, parce que j'accepte l'emprise avec foi. Encore une fois, frères et sœurs. Vous voyez, c'est cette grâce de Dieu qui a besoin, cette loi de Dieu. Enfin, juste, vrai, la meilleure qui puisse exister, contrairement à ce qu'on peut penser quelquefois. je l'accepte. Et Dieu me garde dans sa puissance parce que, enfin, en tout cas, enfin, dans cette version, c'est marqué, dont vous acceptez, j'accepte l'emprise. J'accepte d'être l'emprise, d'être prisonnier, entre guillemets, de cette loi écrite dans mon cœur. J'accepte que ce soit elle qui dirige ma vie. J'accepte son cadre, son emprise. Alors Dieu me garde. Parce que si je ne l'accepte pas, est-ce que Dieu me garde? Ce n'est pas ce que dit ce texte. Ce texte me dit que Dieu me garde parce que j'accepte cette emprise. Et puis écoutez la suite, parce que là je vous le découpe ce verset, mais il nous est dit, alors je le relis depuis le début, « Pendant qu'il vous garde par cette puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi, pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, on dit que nous sommes sauvés. On n'est sauvés par grâce, d'ailleurs, c'est vrai encore une fois. Mais voilà, je ne vais pas refaire toute la prédication que je viens de vous faire hein, sur la grâce. On est sauvés par grâce, c'est clair. Mais je prends par la foi ce salut. Ce texte me dit que l'accomplissement du salut, je vais le dire comme ça, aura lieu justement. Enfin, aura lieu, on peut comprendre ça en tout cas, le jour où on sera aux noces de l'agneau. Il y aura l'accomplissement, la validation du salut, je ne sais pas comment dire, enfin j'espère que vous comprenez, en tout cas c'est ce que ce texte dit. Je suis sauvé par grâce, j'ai la foi du salut, mais l'attestation, le sceau sera donné parce que mais dans ce salut, dans cette notion de salut qui nous est acquis, il nous est acquis parce que nous gardons par sa puissance et que nous acceptons l'emprise de cette puissance avec foi. C'est ce que dit ce texte. Et Pierre va dire ici, au verset 6, je reviens donc à cette notion de joie, la joie de la fiancée. Alors, réjouissez-vous à cette pensée. Alors, je vous développerai ça la prochaine fois. Mais, voilà, c'est la joie de la fiancée. Qu'est-ce qui fait la joie de la fiancée? C'en est un des éléments. C'est ce que Pierre dit. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Vraiment. Et ce verset 6 nous dit ceci. Parce que ça, ce verset 6, là, il y a des réalités. Hein. Enfin, des réalités, ouais, c'est vrai. Une réalité vraie. Je ne sais pas comment dire. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement, vous êtes dans la tristesse. Donc, la joie, on peut être triste, mais être dans la joie quand même. Bon, je reviendrai la prochaine fois. Parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Mais elles éprouvent la réalité de votre foi, et elles en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, et qui pourtant disparaîtra un jour. Pourtant, beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu? Vous placez votre confiance en lui sans le voir, encore et à cause de lui. Alors vous êtes transporté de joie et d'une joie inexprimable. C'est-à-dire d'une joie, mais pas plus grande joie, quoi, qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Alors ouais, on comprend pourquoi cette joie est inexprimable. Car vous êtes assuré de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Je relis, hein. Vous êtes assuré. Vous avez une assurance ferme, définitive, de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Et la foi qui est là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la certitude du salut. Alors il faut définir ce qu'est la foi. Hein, on y reviendra. Ce salut a fait l'objet des recherches, écoutez bien, là aussi c'est quand même assez extraordinaire, Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui l'ont annoncé d'avance, qui ont annoncé plutôt d'avance la grâce qui vous était destinée. La grâce dont on bénéficie aujourd'hui. Il cherchait à découvrir à quelle époque, à quel élément se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux, car cet Esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle était suivie. Il leur fut dévoilé que la révélation dont ils étaient porteurs ne concernait ni eux-mêmes ni leur temps. C'est pour vous qu'ils se dévouaient à ce ministère. Le message prophétique qu'ils ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes vous envient. Waouh! Ouh! Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. C'est pourquoi rassemblez vos pensées, vos énergies. Tenez-vous prêt à avancer et à agir. C'est important. On doit se préparer. Et Pierre va dire, soyez sobre. Il donne quelques indications, quelques précisions. Soyez probe, sobre, pardon, vigilant. Gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce, encore une fois, qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois, la mort adamique, hein, de notre nature adamique, au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Montrez par tout votre comportement que Dieu est en train d'écrire, ça c'est moi qui le dis comme ça, hein, que vous avez laissé Dieu écrire sa loi dans vos cœurs. La loi de Dieu est parfaite. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà cet après-midi, vous serez saints car moi je suis saint. La grâce dans la nouvelle alliance. La grâce, pour moi, c'est ce que Dieu, enfin, ce que je comprends, ce que je saisis. Alors, je ne suis pas en train de définir toute la notion de grâce, hein. C'est pas l'objet d'ailleurs du message, mais n'empêche que la grâce, enfin, une partie tellement importante de la grâce, c'est que Dieu, dans sa grâce, écrit sa loi dans mon cœur et qu'il me rend capable d'accomplir sa loi. Et dans un certain sens, en accomplissant la loi que Dieu écrit dans mon cœur, il me rend capable d'avancer dans la sainteté. Alors, je vais arrêter là pour cet après-midi. Je vous partagerai une autre fois sur la joie profonde d'être fiancé de Christ. Mais juste pour conclure, de nouveau, j'aimerais que vous puissiez de nouveau vous interroger, bien sûr, je sais que vous savez la réponse, mais qui est la fiancée et de qui sommes-nous fiancés? Et plutôt à qui sommes-nous fiancés? Et cette fiancée, elle est fiancée, en tout cas, l'Église, la fiancée aujourd'hui, celle qui sera la future épouse. Maintenant, j'aimerais juste vous rappeler quelques caractéristiques. Elle est fiancée à l'agneau de Dieu, frères et sœurs. L'agneau de Dieu, celui qui a payé, qui est mort sur la croix de Golgotha à notre place. Mais aussi, elle est fiancée au Dieu de gloire. Elle est fiancée à l'agneau de Dieu qui est mort, ressuscité. Mais elle est fiancée aussi au Dieu de gloire, frères et sœurs. Au Dieu de gloire. Elle est fiancée à celui qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Elle est fiancée à celui qui est le chemin, qui est la vérité, la vraie vérité, à celui qui est la vraie vie. On peut toujours essayer de trouver la vie ailleurs, hein, mais lui, il a la vraie vie. Il est le vrai chemin, la vraie vérité. On est fiancé à celui qui est amour, à celui qui est patient, à celui qui est compatissant, mais aussi à celui qui est obéissant, jusqu'à aller mourir sur la croix en obéissant à son Père. Hein. À celui qui, du Dieu de gloire qu'il était, s'est fait serviteur. Il a même pris la place de l'esclave quand il a lavé les pieds de ses disciples. On est fiancé à celui qui manifeste cette humilité. Le roi de gloire, il est né dans une crèche, une étable. Il est fiancé, frères et sœurs, à celle qui est en train de se préparer. Enfin, on est, nous, Église, enfin, nous, la fiancée, on est fiancé à celui plutôt qui est en train de préparer la nouvelle Jérusalem, la nouvelle demeure, qui est en train de préparer en même temps l'épouse. Parce qu'on a vu dans les textes de l'Apocalypse que cette Jérusalem céleste symbolise l'épouse. Et quand Dieu dit qu'il est en train de préparer la Jérusalem, moi je ne peux pas faire autrement de réaliser, de penser que Dieu est en train de vouloir nous préparer aussi en même temps. Moi, je réalise ça comme étant une grâce infinie de Dieu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, la grâce n'enlève pas la sainteté et la grâce ne me donne pas le droit de mépriser la grâce. J'arrêterai là pour cet après-midi et je vous partagerai plus sur la joie cette fois-ci, vraiment, la prochaine fois. Alors, je vous invite, je vais prier avec vous pour clôturer ce message. Et puis, on continuera. Je donnerai la parole à Thierry qui présentera plutôt la Sainte Cène. Alors, je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie d'être ce Dieu qui est tellement bon, tellement compatissant, tellement rempli d'amour envers chacun de nous. Seigneur, tu es ce Dieu qui a tout accompli sur la croix de Golgotha. Seigneur, et tu es ce Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui. Seigneur, dans cette grâce, Seigneur, tu es en train de changer nos vies. Seigneur, alors qu'on accepte, Seigneur, que tu écrives ta loi dans nos cœurs. Seigneur, je te prie, Père, pour moi-même déjà, parce que je sais tellement que j'ai besoin d'être travaillé encore. Oh oui, Seigneur. N'arrête jamais, Seigneur, oh Dieu, je te prie cet après-midi, n'arrête jamais d'écrire ta loi dans mon cœur, s'il te plaît, oh Dieu. Et je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs. Viens nous révéler, Seigneur, la portée de ta loi, la portée de ce qu'est la sainteté, la portée dans nos vies, Seigneur, de ce qu'est se préparer aux noces de l'agneau. Seigneur, merci. Parce que là où on se sent incapable, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous rend capables. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous prend par la main. Seigneur, tu es celui qui nous aide, qui nous donne une force, des forces renouvelées pour avancer. Et Seigneur, même quand on n'a pas ce que tu as promis, Seigneur, on sait que nous aurons cette promesse le jour où tu viendras chercher ton épouse. Seigneur, aujourd'hui, aide-nous. Aide chacun de nous, d'entre nous à se parer, Seigneur. Pas selon nos pensées humaines, Père, mais avec tes pensées à toi. Pas seulement avec notre volonté, qui bien souvent est ternie, abîmée par le péché, mais avec ta volonté, qui est juste, sainte, parfaite. Seigneur, cet après-midi, vers qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est vers toi? Où pourrions-nous trouver la vérité, Seigneur, si ce n'est qu'en allant vers toi, en écoutant ta voix, en te laissant écrire, Père? Merci pour la grâce que tu nous fais. Je te bénis. Merci. Amen.